Flash, l'émission pop culture, jeux vidéo, manga, films, séries, animations, jeux de rôle et internet. Présenté par Mel J.A. un mercredi sur deux sur Radio G.
Sur Radio G, vous êtes sur Pop Flash, je suis JR et du coup je serai votre présentateur accompagné comme d'habitude de Mel et pour la deuxième fois de Fadi pour ce nouvel épisode. Bah, bonjour Mel, comment tu vas?
Coucou, ça va très bien, merci. Et vous deux, comment ça va?
Fadi, comment tu vas aussi?
Bah, ça va super bien, merci de nouveau pour l'invitation, grave content d'être là.
Et aujourd'hui, du coup, on va parler de beaucoup de trucs. Il y aura peut-être des chroniques qui seront un peu plus courtes que d'habitude, mais en règle générale, on va parler toujours plus ou moins de la même chose. On va d'abord se retrouver pour une petite chronique sur le jeu vidéo avec Mel, puis ensuite, on parlera de qu'est-ce qu'on lit. Et aujourd'hui, on va tout simplement parler d'un manga qui vient de sortir, le nouveau manga de One, si vous savez plus ou moins qui c'est. Et on parlera aussi d'un comics qui s'appelle Sacrifice, et que, personnellement, j'ai beaucoup aimé, mais on en parlera tout à l'heure. On fera ensuite la première pause musicale et on reviendra juste après pour une petite chronique pop and clap dans laquelle on vous parlera, contrairement à la semaine dernière, de deux choses qu'on a bien aimées. On parlera de Digital Circus et on parlera, du film Loup-garou sur Netflix. Avis un peu plus mitigé, mais encore une fois, on en parlera après. Une fois que cela sera passé, on pourra tout de suite repartir dans le monde du JDR. Et on parlera d'un JDR qui me tient particulièrement à cœur. Deuxième pause musicale et ensuite, on aura la chronique du coup Bric-à-Brac qui cette fois-ci sera assez touffue. Des questions et peut-être un petit sujet qui nous amènera en débat. Eh bien, si tout ça c'est bon, je pense qu'on peut démarrer. Et on va démarrer tout de suite avec du coup la chronique de Mel qui est du coup la chronique Game Pop. A tout à l'heure. Actu et test jeux vidéo, c'est Game Pop avec Mel.
Pour cette chronique aujourd'hui, pas de sortie jeux vidéo vu que je l'ai fait lors de la dernière émission du mois d'octobre. Cependant, j'ai quand même déniché deux sujets à aborder. Vous allez voir, cette chronique, elle est un peu courte, mais quand même, il y a des choses à dire. L'industrie du jeu vidéo s'adapte très souvent aux événements de nos calendriers, et c'est aussi le cas pour Halloween. Et cette année encore, les jeux vidéo ont mis le paquet pour satisfaire leur communauté. Apex Legends, le nouvel événement techno-terror, introduit les cosmétiques cyberpunk et des fonctionnalités de jeux spéciales, incluant des grenades, des kits permettant de copier des capacités de personnages, et cet événement dure du 15 octobre jusqu'à début novembre. Call of Duty The Hunting 2024 permet aux joueurs d'incarner des icônes, d'horreur comme Michael Myers et le clown de Terrifier, tout ça en lançant des DLC pour promouvoir le film Smile 2. Fortnite et les Fortnitemare 2024 présentent des skins inspirés des franchises variées comme Saw, Nightmare Before, Christmas et des personnages Marvel. Le jeu introduit également des nouvelles armes et des défis interactifs. Dead by Daylight, l'événement Hunted by Daylight, propose des cosmétiques thématiques pour des tueurs et les survivants, avec des éléments typiques d'Halloween. Cet événement se termine le 6 novembre. Red Dead Online, le retour des Undead Nightmares et All Hallow Call to Arms, excusez-moi mon anglais, permet aux joueurs de défendre des settlements contre des vagues d'ennemis. On va s'améliorer sur l'anglais.
Settlements, c'est des petits territoires. Alors, j'en parlerai après.
C'est bien, non, il n'y a pas de souci. Mais il y a plein d'autres jeux qui, chaque année, ont des événements comme Palia, Animal Crossing, Overwatch, etc. Personnellement, j'adore participer à ce genre d'événements. J'ai déjà fait souvent les événements d'Animal Crossing, que ce soit pour Pâques, Carnaval, Halloween ou Noël. Et j'apprécie beaucoup les événements d'Halloween sur Overwatch que j'ai fait pendant des années. Et les événements également sur Palia, qui a un studio derrière qui met beaucoup de cœur à l'ouvrage pour faire des événements sympas tout au long de l'année. Et du coup, ma question pour JR et Fadi, est-ce que vous participez à ce genre d'événement?
Je vais laisser Fadi répondre en premier, en vrai.
Ben moi oui, alors je joue pas tous les jours, mais quand je prends un jeu en cours et que j'y suis à fond, j'aime bien suivre, surtout pour les skins et les événements spéciaux. Destiny, j'ai beaucoup joué sur PC, et là tout ce qui est événements de Pâques, nouvel an chinois, Halloween, j'aime bien suivre ça. Ça permet d'ajouter un peu de vivant sur une petite période, et puis quand on est un joueur qui apprécie beaucoup le jeu, bah ça nous permet de rester un peu plus et de garder un peu plus les joueurs, je pense, dans le jeu. Donc oui, ouais, moi tout ce qui est événements spéciaux, je suis pour et j'aime bien.
Ouais, moi aussi.
Pour ce qui est des événements spéciaux, je suis le plus gros client qu'il peut y avoir dans cette pièce à mon avis. J'ai fait tous les événements spéciaux quand je jouais à Overwatch, j'ai fait tous les événements spéciaux quand je jouais à LoL, même celui d'Arcane qui était vraiment un événement de pigeon. Et je fais Dead by Daylight, tu me parles de skin pour les tueurs. Moi, je joue toujours beaucoup à Dead by Daylight. Et si je peux me pavaner avec un skin spécial devant les survivants en tant que tueur, c'est toujours un petit plus. Voilà, je suis un énorme client.
Le deuxième sujet, j'ai hâte d'avoir votre avis à tous les deux. Ubisoft a récemment lancé Prince of Persia The Lost Crown, un jeu bien noté, donc 86 sur 100 sur Metacritic. Mais les ventes n'ont pas été à la hauteur des attentes selon Michael Dowse de Larian Studio, donc créateur de Baldur's Gate 3. Cette contre-performance serait liée à la stratégie de distribution du jeu. En effet, Ubisoft l'a d'abord rendu exclusif uniquement sur l'Epic Game Store et Ubisoft Store, limitant donc sa visibilité. Et Michael Dowse estime qu'une sortie sur Steam dès le début aurait permis au jeu d'atteindre un plus large public et d'augmenter les ventes, évitant ainsi les répercussions sur l'équipe de développement qui, du coup, suite au retour mitigé, a été redirigée sur d'autres projets. Et du coup, l'Ariane Studio critique Ubisoft pour avoir sacrifié l'accès du jeu à une audience plus vaste en faveur de ses propres plateformes. Michael Dowse a aussi souligné l'impact de ce type de stratégie sur l'emploi des développeurs, expliquant qu'une politique centrée sur des plateformes restreintes pénalise souvent les équipes, même lorsqu'elles produisent un jeu de haute qualité. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait des plateformes exclusives, ou vous pensez que c'est mieux qu'un développeur mette ses jeux sur le plus de plateformes possible ? Paddy ?
Ça dépend du jeu, je pense. Ça dépend de la franchise. Prince of Persia, à mon niveau, c'est pas un jeu qui a une hype de ouf. Je crois que le dernier Prince of Persia, il date d'il y a méga longtemps. En tout cas, le dernier jeu qui a bien bien fonctionné. Donc en vrai, pour une nouvelle sortie, mettre ça sur les plus de plateformes possibles, oui. Mais si on prend l'exemple de la nouvelle de Spider-Man PS4, d'abord PS4 en tout cas, là, la franchise, tout le monde la connaît. Le jeu, il était incroyable. Et ça a été d'abord une exclue PlayStation avant d'arriver sur le reste, mais là on sait dans quel univers on va, on sait à quoi s'attendre. Les gameplays, ils ont été vraiment incroyables. Donc je pense que ça dépend de la franchise et de la hype du jeu et de l'univers qui existe au moment T, parce que Spider-Man c'est Marvel, ça fonctionnait à fond quand le jeu vidéo est sorti. Prince of Persia un peu moins. Donc
oui,
je pense que ça dépend.
Je suis plutôt du même avis que Fadi, dans le sens où ça va vachement dépendre en fait de la licence. Pour rebondir sur ce que tu disais sur Spider-Man, ça a été vraiment entre guillemets une tête de proue pour tout ce qui était PS4, PS5, tout ça. Les gens achetaient la console entre autres pour jouer à ça. Prince of Persia, personnellement, c'est un jeu qui c'est mon enfance. J'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune. Ils ont essayé de faire une percée au cinéma qui n'a pas marché. Le film était merdique, faut le dire à un moment. Et du coup, je pense que pour Prince of Persia, qui est un bon jeu, pour avoir des proches qui ont déjà joué, c'est vraiment un bon jeu. Ils auraient dû, en fait, plutôt que de favoriser la PS5, parce que la PS5, c'est déjà une console qui se vend bien et sur laquelle ils se font des couilles en or, peut-être se faire... justement laisser tout le monde y jouer, il se serait fait plus d'argent. Et puis même pour l'Ariane Studio, ça aurait été bien. L'Ariane Studio, c'est un studio qui, on le sait, par rapport aux jeux qu'ils ont fait par le passé, est un studio qui est vraiment qualitatif. Et leur mettre des bâtons dans les roues comme ça, c'est pas un bon move. Ça peut être aussi bien avoir des répercussions sur le studio parce qu'ils ne vont pas pouvoir être bien payés, mais aussi sur les futurs partenariats, parce que c'est peut-être pas ce qui va se passer, mais si un jour ton boss te la met à l'envers, peut-être que tu voudras pas bosser avec lui plus tard.
Ouais, c'est ça. Et en fait, le problème que Michael Dowse, donc l'un des créateurs du studio, l'Arène Studio, a dit qu'en fait, ce qui pose problème là, c'est surtout qu'ils ont redirigé les équipes qui ont travaillé sur Prince of Persia. The Lost Crown. Donc en fait, en gros, Ubisoft a un peu mis la faute sur leur dos, en mode ouais, vous avez pas fait un assez bon jeu, etc. Du coup, ils les ont pénalisés, les équipes et les développeurs de ce jeu, plutôt que de se dire bah on va agrandir, on va le mettre sur Steam, etc. Et c'est ça qu'en fait l'Arène Studio critiquait surtout. En fait, c'est pas le fait que ce soit exclusif, mais c'est surtout de punir entre guillemets les développeurs et de les remettre sur d'autres projets après quoi.
Normal. Après encore une fois, ça m'étonne pas de venant d'Ubisoft. Hein. On connaît quelqu'un qui y travaille, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc j'essaye d'être le plus mesuré possible dans ce que je dis. Mais c'est pas des gentils Ubisoft, c'est pas des personnes qui sont réputées pour être avoir on va dire un management qui est doux et qui est on va dire positif. Encore une fois, je vais pas m'avancer, mais si je me trompe pas, ils ont eu à une époque aussi une politique d'acheter des studios pour ensuite les faire farmer. Enfin, voilà, on pourrait dire beaucoup de choses, mais encore une fois, si vous voulez une chronique là-dessus, en vrai, exactement comme pour l'état en fait du commerce du JDR aujourd'hui en France, on pourrait en faire une chronique complète dessus, ouais. Voire même une émission complète dessus avec plusieurs intervenants.
Il y a de quoi dire sur les créateurs de studios de jeux vidéo. Oui. Mais du coup, c'est la fin de Game Pop. Okay. C'était très court aujourd'hui, mais je voulais avoir votre avis sur ces deux jeux. Et la prochaine fois, on fera une chronique un peu plus longue, c'est promis.
Ok, bah du coup, on se retrouve. Merci beaucoup déjà, Amel, pour cette chronique. Et on va tout de suite passer à qu'est-ce qu'on lit. Et du coup, je vais lancer le générique. Auréal.
Préparez vos marque-pages, c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on lit avec JR.
Alors, qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on va parler de deux livres en particulier, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Dans un premier temps, on va parler d'abord du manga, comme d'habitude, encore une fois, j'ai envie de dire. Et ensuite, on parlera d'une BD franco-belge qui s'appelle Sacrifice. Mais on va commencer tout de suite, du coup, par parler de Versus. Versus, qu'est-ce que c'est ? Versus, c'est le dernier manga qui a été écrit par One. One, qui est notamment connu pour One Punch Man, qui est un très bon manga, qui a été illustré par Murata, si je ne me trompe pas, et par Mob Psycho 100, qui est pour moi sa meilleure œuvre. Mais encore une fois, on en parlera une autre fois si ça vous intéresse. Il y a des très très bons animés sur ces deux séries. Enfin, très très bons animés pour les deux. Non, il y a un très bon animé pour Mob Psycho 100, pour One Punch Man, passez votre chemin, que vous pouvez retrouver sur Crunchyroll. Mais encore une fois, ça c'est autre chose. Aujourd'hui, on parle de Versus. Et Versus, qu'est-ce que c'est ? Versus nous plonge dans un monde de fantasy dans lequel les démons ont envahi une planète et ont pris le contrôle de cette planète avec notamment 47 seigneurs démons et un roi démon. Pour contrer cette invasion, des héros ont été formés, 47 héros. Et on va être amené à suivre le 11e héros qui, du coup, doit aller se battre contre un des rois démons. Et alors que si au début, on voit le manga comme étant, on va dire, un manga de fantasy, on va dire, assez classique, dans lequel les humains bombent le torse en mode, hahaha, en deux mois, ce sera fini. Eh bien, au bout de les 5 premières pages, on se rend compte que tous ceux qui faisaient les beaux sont morts. Soit ils se sont fait briser mentalement, soit ils sont transformés en démons. Et le 11e héros qui va, du coup, aller voir ce roi démon qu'ils doivent tuer, et il va se faire péter la gueule. C'est probablement, sans être trop gore, une des scènes les plus violentes de tabassage que j'ai vu littéralement. Genre, tout son groupe se fait massacrer devant nous, et on comprend très vite qu'en fait, le combat n'est pas gagnable. Le héros est laissé pour mort, il tombe dans une rivière, patati patata. Bref, tout ça pour dire qu'à la fin, que ce qui se passe, c'est que la guilde des mages de ce monde avait prévu ce cas de figure, parce que visiblement, ils sont peut-être plus intelligents qu'en guerrier, on s'en serait pas douté. Et ils ont créé un sort pour appeler d'autres humains à l'aide au cas où, justement, ça raterait. Le sort se passe, des humains arrivent, et rien ne se passe comme prévu. Disons que en fait, ils ont appelé des humains qui... eux aussi ont appelé d'autres humains parce que c'était la merde dans leur monde, et qu'au lieu d'appeler une seule peuplade humaine, ils en ont appelé 13, et ces 13 humains arrivent avec leurs ennemis naturels. On se retrouve donc dans un multivers, très bien expliqué, avec un dessin qui sont très beaux. D'ailleurs, les dessins sont faits par Kyotaro Azuma, qui n'est pas très connu en France, qui est juste connu pour une de ses séries, qui est King of Fighters New Beginning, que je n'ai jamais lu, personnellement. Et du coup, on va suivre cette bande de losers que sont l'humanité dans leur épopée pour essayer de s'en sortir et de ne pas crever. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Puis après, je laisserai aussi Mel dire ce qu'elle en a pensé. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'est que putain, qu'est-ce que c'est bon ! Je crois que c'est vraiment un des meilleurs mangas qui est sorti cette année. Après, encore une fois, je suis pas ultra objectif. J'aime beaucoup One, j'aime beaucoup son style d'écriture. J'aime beaucoup le fait qu'à chaque fois qu'il crée un nouveau manga, ce soit une espèce de satire en fait du matériau de l'origine. Et là, on est en plein dedans. On est dans le shonen, mais on est pas trop non plus dans le shonen, ça parlait quand même de certains sujets qui vont être graves. Une des peuplades humaines, pour l'instant, elle est pas très développée, donc je vais pas trop en dire, mais visiblement, leur ennemi naturel, ce n'est pas un grand méchant quoi que ce soit, c'est tout simplement qu'ils sont accros aux jeux vidéo. Ce qui peut, encore une fois, poser des questions, on vit dans une société, n'est-ce pas ? Mais voilà, donc non, en plus, ça change beaucoup de ces anciens mangas pour moi, en tout cas, enfin, c'est mon impression, parce que pour une fois, on ne suit pas un personnage qui détruit son verse. Quand je dis verse, c'est son univers. On va prendre One Punch Man, c'est une personne qui avait des cheveux, qui est devenue chauve en faisant l'entraînement que tout le monde peut faire, en fait. Sans jumping jack, sans squat, sans pompe et 10 km de course tous les jours, c'est pas agréable à faire, mais ça se fait. Et pourtant, je pense pas que une personne sur Terre soit devenue chauve et qui puisse pas. Non, en fait, tuer tout le monde avec un coup de poing. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et Mob, c'est exactement la même chose. Un gamin qui a des pouvoirs qui sont beaucoup trop grands pour lui et qui, contrairement à ce qu'on aurait pu voir dans certains animés qui sortent aujourd'hui, est profondément pacifiste et ne veut pas, en fait, se battre. Ces deux mangas posaient des questions qui étaient intéressantes, encore une fois, sur le ton de l'humour. Et pour une fois, on va probablement parler d'autres sujets avec ce manga que va être probablement l'humanité. J'imagine bien certaines questions, notamment sur l'environnement, au vu de l'apparence de certains ennemis. Mais voilà, pour moi, c'est un manga que je vous conseille. Il est petit, par contre ce sera une série longue. Vous pouvez le trouver soit à la Fnac, soit au Repère des Héros, soit à Azumanga. Et foncez les yeux fermés. Mais je sais que du coup, Mel l'a lu aussi. Du coup, je vais te laisser te dire ce que t'en penses.
Effectivement, je l'ai lu et j'ai bien aimé. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une sorte de multivers avec d'autres humains, etc. Je croyais qu'on était plongé dans de la fantaisie, en fait. Et du coup, j'ai été étonnamment surprise quand il y a des humains avec leurs gros guns qui sont arrivés dans un monde de magie. J'étais là, ah, d'accord, ok, sympa. C'est légèrement violent, c'est graphique, mais je m'attendais à pire, honnêtement. Donc ça va, même si je le mettrais pas aux mains des enfants. Je m'attendais à aussi un humour assez absurde, parce que dans One Punch Man, dans Mob, l'humour de One, il est un peu grotesque.
La gueule de la fée, elle, quand même.
Oui, bon, il y a une fée qui a une tête de cochon, etc. C'est assez drôle. Mais je m'attendais à un truc beaucoup moins sérieux. Dans One Punch Man, c'est vraiment... c'est grotesque, limite. Dans Mob, c'est un peu plus sérieux, mais il y a quand même un côté très humoristique. Et là, non, c'est vraiment sérieux. Et ça me plaît plus en termes de lecture. Donc, je suis impatiente de lire la suite.
Ok. Et toi, Fadi, est-ce que ça t'a donné envie ?
Oui, tout ce qui est multivers, ça me fait kiffer. Voilà, fin avant. Donc cet argument, il est incroyable. Comprendre comment tout le monde collabore ou échange avec tout le monde, cette grande rencontre. En vrai, c'est ce qui m'a donné le plus envie. Donc pourquoi pas y jeter un coup d'œil. Et puis en plus, comme ça parle baston, voir comment tout le monde se bat entre eux avec sa technologie dans un monde qui ne leur correspond pas. Il peut y avoir de belles surprises.
Ah oui, d'ailleurs, je rajoute juste les chara-design, ils sont incroyables. Voilà.
Moi, j'ai pas trop l'habitude de ce genre de chara-design, mais après, je suis plus dans les chara-design style shoujo.
Oui,
donc,
voilà.
C'est pas tout à fait pareil, donc c'est normal. Un autre truc que j'aimerais rajouter, c'est que effectivement, le monde, il prend le temps d'expliquer le monde, et ça, j'adore quand on prend le temps d'expliquer un univers, etc. Pourquoi il y a les démons. Combien il y a de démons, etc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le héros, il a telle épée, machin, tout. Moi, j'aime bien quand on m'explique l'univers.
Et pour ça, on est servi dedans. Tous les univers sont bien expliqués. Mais voilà, à part si, du coup, vous avez quelque chose à rajouter, on va passer du coup tout de suite à la suite et on va parler de Sacrifice. Sacrifice qui est du coup le premier tome d'une série d'une BD franco-belge qui a été scénarisée par Max Fiumara et qui a été dessinée par Rick Remember. Qu'est-ce que c'est Sacrifice ? Accepteriez-vous un monde sans famine, sans guerre et avec une sécurité presque totale contre un simple sacrifice ? Voilà le pitch de base de Sacrifice. Sacrifice est un monde de dark fantasy dans lequel tous les 20 ans, chaque famille doit offrir un enfant pour faire son sacrifice. Personne ne sait ce qu'il se passe dans ce sacrifice et le monde continue de tourner. On suit du coup un homme pigeon qui va être donné par sa famille en sacrifice pour éviter que ça leur fasse trop mal cet enfant, parce que c'est un enfant depuis sa naissance est mis de côté et est un peu maltraité. D'ailleurs, trigger warning, il y a de la violence, il y a beaucoup de violence dans cet univers. Et du coup, on va suivre du coup cet enfant qui résigné va se faire sacrifier par ses parents, mais qui peut-être ne le sait pas, mais sera peut-être le truc qu'il faudra pour briser ce cycle qui est au final, on va s'en rendre compte, malsain. Pourquoi est-ce que c'est bien sacrifice ? Sacrifice, c'est bien parce que c'est encore une fois, bon, juste ça va devenir assez récurrent dans l'émission. Ne faites pas lire ça à vos enfants, vraiment, parce que. C'est pas bien. Mais non, ça va nous faire poser beaucoup de questions sur notamment le fait qu'il y ait de caste sociale. Ça va nous parler d'égalité des chances. Ça va nous parler aussi d'injustice. Beaucoup, beaucoup d'injustice. Il faut savoir que du coup, dans Sacrifice, on parle de Dieu. Parce qu'évidemment, il y a des dieux là-dedans. On pense ce qu'on veut des dieux. J'ai un avis qui est assez fait, qui est assez là. C'est des enculés, voilà. Bref, passons à autre chose. Mais du coup, il y a la personnalisation du soleil, de la lune, tout ça. Les dessins sont magnifiques. Et en fait, je peux pas trop vous parler de l'histoire sans, en fait, sans spoiler. On va suivre plusieurs personnages et on va suivre aussi des personnages après, en fait, qu'on aurait pu penser que leur arc était fini. On va prendre l'exemple, par exemple, de la famille qui a sacrifié son fils au début. On les revoit des semaines plus tard à la grande fête du sacrifice qui, du coup, promet une nouvelle ère, en fait, de prospérité. Et on se rend compte que même s'il y a certains parents qui se noient dans l'alcool pour essayer d'oublier qu'ils ont tué leurs enfants, d'autres, comme du coup cet homme pigeon, sont dans cette situation de vous rendez compte qu'on vient de donner notre enfant à on ne sait quoi, et que là vous êtes en train de boire et de fêter alors qu'en fait on aurait pu très bien tout simplement dire non. C'est une question, est-ce qu'ils ont le droit de dire non ? Qu'est-ce qui se passe s'ils disent non ? Tout ça, c'est des questions qu'on n'a pas. Le premier épisode est vraiment là pour poser l'univers, et le tout est vraiment magnifié par des dessins qui sont parfois qui font penser à des gravures, voire à de l'aquarelle. C'est beau, c'est bien dessiné, c'est pour les adultes. Il n'y a pas de scène de sexe. Et c'est pour une fois, je trouve ça... Pour une fois que dans un manga, enfin dans un livre qui est pour adultes, il fasse peut-être un peu de l'impasse là-dessus, je trouve ça plutôt bien. Et c'est intéressant, ça permet de parler d'autres sujets. Et du coup, encore une fois, foncez, c'est chez Urban Comics. Et j'ai rien à ajouter, mis à part que je pense que... Si je l'ai trouvé, enfin de base, si j'étais parti pour acheter autre chose, j'étais parti pour acheter la chronique du contre, la Horde du contrevent dont on parlera une autre fois, qui est aussi un très très bon livre, une très très bonne BD. Mais en fait, en parlant avec le vendeur du repère des héros, gros big up à lui, qui m'a conseillé du coup cette BD et qui du coup me l'a fait découvrir. Du coup, je le remercie parce que je pense que c'est une des meilleures découvertes que j'ai fait cette année. Voilà. Est-ce que ça vous a donné envie de le lire?
Alors un peu moins sur celui-là parce que tout ce qui va être question de des situations de famille un peu complexes. Moi, c'est un sujet que j'ai du mal à aborder dans de la lecture ou dans des films ou des trucs comme ça. Ça me touche un peu moins. Et en fait, je vais moins être porté dans l'histoire du livre, mais je vais tout de suite me poser des questions sur ma propre vie. Et je crois que c'est pas trop ça le but.
Non, c'est pas le but
du livre. Mais par contre, les exemples que t'as donné sur la qualité des dessins, ça peut donner envie juste de voir, de jeter un coup d'œil sur comment c'est. Mais c'est vrai que l'histoire en elle-même, c'est moi, à titre perso, qui accroche moi sur ce thème.
Ah bah je comprends tout à fait. Et toi du coup, Belle ?
Moi ça me tente de ouf. Moi j'adore tout ce qui est dark fantasy, etc. J'en lis pas beaucoup, mais j'essaye de m'y mettre. Et ça me tente de ouf. Et puis le fait que les pages peuvent être dans un style un peu aquarelle et tout ça, ça m'a grave donné envie.
Donc, ça tombe bien, on l'a à la maison.
Ouais, voilà.
On lit. J'espère que ça vous a plu encore une fois et on va tout de suite passer du coup à notre pause musicale. Aujourd'hui, je vous propose Megalovania que vous pouvez retrouver dans Undertale et ensuite on verra pour la prochaine. À tout à l'heure. Je rappelle juste, vu que ça fait 30 minutes, que vous êtes sur Radio G 101.5 FM, radio disponible aussi sur DAP+, et vous écoutez Pop Flash. Mais du coup, on est de retour tout de suite pour une chronique, cette fois-ci, qui sera basée sur le cinéma, une chronique que vous connaissez à connaître, une chronique qui s'appelle Pop and Clap. Action, émotion et un peu de popcorn, bienvenue dans Pop and Clap.
Connaissez-vous le lien entre le jeu du loup-garou, Franck Dubosc et Johnny Hallyday ? Eh bien, ces trois éléments se retrouvent réunis dans le film Loup-garou sur Netflix. L'histoire suit une famille recomposée qui, après une partie de loup-garou qui tourne mal, se retrouve projetée au Moyen-Âge dans un village mystérieux. Chaque membre se voit attribuer un pouvoir et doit identifier les véritables loup-garous pour récupérer des cartes leur permettant de retourner à leur époque. Mais la tâche s'avère bien plus complexe. Mais pour pas trop vous spoiler, je vais m'arrêter là pour l'histoire. Alors, qu'en ai-je pensé ? Eh bien, je suis partagée. Le film, il est pas excellent, mais il est pas mauvais. Sans attente particulière, j'ai finalement eu quelques sourires, même une petite larme à la fin, mais je suis très bon public, hein. On va pas se mentir. Cependant, certains éléments m'ont fait lever les yeux au ciel, notamment sur le fait que le film tente d'être inclusif, mais les messages sont parfois maladroits. Par exemple, la mère, Marie, une avocate féministe engagée, est souvent dépeinte de manière peu sympathique, voire même parfois détestable. Elle est accusée de sorcellerie après avoir confronté un homme violent, mais elle est finalement sauvée par son mari et ses enfants. Niveau valeurs féministes, etc., bon, je pense qu'ils ont des progrès à faire sur ça. Et donc, du coup, c'est un traitement qui atténue son rôle d'héroïne, je trouve, et qui dessert un peu toute la cause qu'elle essaye de porter dans le film, en fait. Donc, j'ai trouvé ça dommage. Et quant à la représentation de l'homosexualité, elle tombe un peu dans les clichés. Un personnage homosexuel est stéréotypé avec des blagues qui semblent se focaliser uniquement sur son orientation. Par exemple, il aime les hommes, forcément, il va tomber amoureux du père. Il aime les hommes, forcément, il a des perruques dans son placard. Voilà, ouais. On souffle sur ce genre de truc, même si les messages se veulent malgré tout tolérants. Bon, voilà, après c'est un film français, on sait que les films français, quand ils essayent de faire des trucs inclusifs, ils le font toujours de manière un peu maladroite pour l'instant, en tout cas, surtout dans les grands trucs comme ça. Mais dernier point négatif, pardon, les effets spéciaux pour les loups-garous sont décevants. Et certains personnages introduits mais inutilisés laissent des questions en suspens, ce qui affaiblit la cohérence de l'univers. Malgré tout, les acteurs livrent de très bonnes performances et j'étais très étonnée parce que, à part Franck Dubosc, bon, y a quand même des grosses têtes, hein, mais y a Franck Dubosc, Jean Reno par exemple, mais les autres je connaissais pas et c'était de très bons acteurs. Même la petite fille qui joue est vraiment très bien et visuellement le film est super agréable, il est super joli visuellement, sauf les loups-garous, encore une fois. Mais loup-garou, du coup, offre un moment sympa, mais c'est pas un incontournable. JR, je sais que tu l'as lu, Fadi, vu, pardon. Est-ce que toi, tu l'as vu, Fadi ?
Je l'ai pas vu, j'ai prévu de le voir. Et dans mes a priori et mes attentes, il y a à peu près ce que tu viens de dire. Ouais. J'avais peur des graphismes. Je me demandais si tous les personnages spéciaux seraient utilisés. Mais tu vois, j'avais pas prévu l'inclusivité et qu'elle serait maladroite. Mais je te rejoins sur le monde du cinéma français et l'inclusion. Il y a encore des progrès. Ils essaient, mais il y a encore des progrès.
Bon, allez. C'est le tour du papier aigri. Ben pour une fois, je suis pas si salé.
Ouais, bravo. Ça mérite des applaudissements. Ouais.
Disons que j'avais beaucoup, beaucoup d'a priori quand je l'ai vu. Et aussi, j'avais déjà vu des critiques. Soit les gens avaient adoré, soit les gens avaient détesté. Ce qui fait que j'avais un peu peur en allant dedans. C'est pas le pire film de l'année. Il n'empêche que je pense que c'est quand même un énorme gâchis. Je m'explique. Dans le sens où il y a des très très bons acteurs dedans. Franck Dubosc, moi je le connaissais pas, je le connaissais pour ses comédies et du coup ça me faisait un peu peur. Jean Reno, c'est un très bon acteur et l'actrice qui joue la fille et la femme du coup de Franck Dubosc, ce sont, je pense, de très bons acteurs et des acteurs assez connus. Mais j'ai l'impression que c'est plus un film familial qui essaye de parler des problèmes familiaux, du fait que le père ne puisse pas parler avec son père qui est en train de perdre la boule, du fait que le fils a encore des problèmes par rapport à son identification de genre, qui d'ailleurs est traité mais avec une truelle. Oui, en effet, c'est vrai. Avoir les cheveux longs, ça veut pas dire être une fille. Merci le film de le dire. Enfin, bref. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même souri une ou deux fois. Après, ma plus grande déception, je dirais que c'est quand même les loups-garous. Qui, le film s'appelle Les Loups-garous, donc ce serait cool de les voir, de pas juste voir des personnes en costume. Quand les acteurs sont en tant qu'humains, entre guillemets, parfois ils sont enroulis, mais souvent on va dire qu'ils ont des expressions qui jouent de manière assez correcte, voire bien. Quand ils sont en loup-garou, le visage des loup-garous ne bouge pas. C'est vraiment genre, on aurait dit, hier c'était Halloween, hein, on aurait dit que c'était trois personnes qui sortaient pour aller à Halloween, quoi. Et enfin, j'ai pas envie d'être mes 10 ans, mais c'est dommage, quoi. Il y a un film avec un budget de Netflix, et donner ça, ça. Je pense que le cinéma français peut faire de très belles choses. Je pense juste qu'aujourd'hui, on a vraiment un souci avec ce qu'on veut faire du cinéma français et ce qui marche avec le cinéma français. Et malheureusement, ça va pas changer du jour au lendemain. Dans l'ensemble, c'est pas un mauvais film. Enfin, si c'est pas un bon film, mais c'est pas un mauvais film. C'est un film que je dirais, 4 sur 10. Et puis, par rapport à la dernière fois, je suis beaucoup moins salé.
Oui, juste pour préciser, du coup, parmi les acteurs principaux, on retrouve du coup Franck Dubosc, Jean Reno, du coup Suzanne Clément et Lisa Docuto Texera. Okay. Voilà, je précise parce qu'on n'avait pas tous les noms. Mais je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que tu dises que ça s'appelle loup-garou. Donc on aurait dû en avoir plus sur les loups-garous. Parce que le jeu loup-garou, c'est pas que sur les loups-garous. Et là, ils font une partie littéralement de grandeur nature, limite de loup-garou, tu vois. Donc je suis pas tout à fait d'accord, même si je comprends ce que tu veux dire.
Il y a un truc que, en fait, j'aimerais bien répondre là-dessus, mais en fait, ça veut dire qu'il y aura une petite partie spoiler.
Fadi, bouge-toi les oreilles. Ouais.
Je vais pas en parler, mais c'est juste que il y a un loup-garou qui est bien animé.
Oui.
Oui, voilà. Il y en a un seul qui est bien animé, et encore même celui qui est bien animé. Et production des années 2010,
ouais.
Quoi.
Ouais, par contre, oui. Les loups-garous sont pas très bons.
C'est vraiment, ça pique les yeux.
Ouais, mais justement, tu vois, heureusement qu'ils sont pas beaucoup là, et heureusement qu'on en sait pas plus, du coup, vu que, comme ils sont pas très beaux, les loups-garous.
Et puis même, pour revenir là-dessus, ça, c'est même pas en. Comment dire? C'est même pas en spoil, en fait. On nous présente un personnage. Le personnage qui est à l'origine, en fait, de ce qui se passe. Qui est directement présenté à la minute 1, donc je vais dire son nom, c'est l'homme à la peau de loup.
Ouais.
Et l'homme à la peau de loup, on nous le présente, on le voit, on en parle pendant tout le film, mais on ne sait pas qui c'est, et on ne sait pas pourquoi il fait ça, d'où vient le jeu du loup-garou, En fait, la principale question qu'on devrait se poser dans ce film n'est pas répondue parce que, enfin, pour le coup, je trouve que c'est un pétard mouillé, mais encore une fois, c'est je sais que, d'un point de vue de quand je regarde un film, je sais que je fais partie de ce public qui peut être chiant, dans le sens où je vais être très critique. Je vais pas réussir à débrancher mon cerveau.
Ouais. Après, je pense qu'il est pas très long non plus. Je crois qu'il dure 1h30, quelque chose comme ça.
1h30, 80 minutes.
Ouais, je crois que c'est pas très long, je pense, pour développer tout un univers. Et c'est vrai que moi, c'est une de mes plus grosses questions. Qui est le garçon au pot de loup? Moi, ça m'a frustré tout le film de pas savoir voilà. Donc ouais, ça manque un peu de consistance.
On va devoir abréger. Je suis désolé. On va passer tout simplement à la deuxième chose dont on va parler pendant cette chronique, puis on passera du coup à la chronique JDR qu'on fera très rapidement. Mais pour ce qui est de la deuxième œuvre, du coup on va passer à la troisième œuvre. Et la deuxième œuvre dont on va parler aujourd'hui, c'est The Amazing Digital Circus, qu'on peut trouver aujourd'hui sur Netflix. C'est une série qui était à la base sur YouTube, qui était déjà assez connue, que vous avez déjà dû voir des personnes qui se déguisaient en Pomni, qui se cosplayaient en Pomni ou en là. The Amazing Digital Circus, c'est l'histoire d'une personne de sexe féminin, parce que pour l'instant on ne connaît pas son vrai nom, qui suite à l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle va se retrouver bloqué dans un cirque digital. Ce cirque est présidé par Kane, une IA qui est divine, qui les envoie tous les jours dans des missions pour pas qu'ils deviennent fous. et elle sera enfermée avec 5 autres humains. Jax en lapin, alors là, Jax en lapin, sous la forme d'un lapin, Ragata qui prend la forme d'une poupée de chiffon, Gangle qui prend la forme d'un masque de théâtre avec un ruban, Zoubel qui prend la forme de plusieurs jouets pour enfants qui sont un peu rapiécés et qui peut être un peu dérangeant quand tu le vois, et enfin Ed Kinger qui personnellement est mon personnage préféré, qui est visiblement un personnage assez âgé qui du coup prend la forme d'un jeu de roi d'échecs. Encore une fois, comme je l'ai dit juste avant pour le livre, c'est pas un truc qu'on montre aux enfants parce que ça va parler de problèmes mentaux, ça va parler d'isolement, ça va parler de relations humaines. Et je trouve ça intéressant qu'on ait une série qui arrive à parler de ça en restant assez enfantin. Et après, ça m'étonne pas trop venant de Glitch, qui est du coup la société de production qui fait ça, qui est globalement une société qui est sur YouTube, qui a aussi produit Murder Drone, qui est sur YouTube, qui est une très bonne série d'animation, dont on parlera une autre fois si vous voulez. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, c'est très coloré, l'animation, elle est clean, mais c'est fou. Et... pour quelque chose d'indé surtout. Et tous les personnages sont plus ou moins attachants. Personnellement, j'ai un peu de mal avec Jax parce que je trouve que c'est un connard, mais ça c'est autre chose encore une fois. Mais
moi c'est l'un de mes persos préférés.
Mais voilà, j'aime beaucoup Kinger, je trouve que Kinger touchant, je trouve Ragata bien, Gangle pour l'instant on la voit pas trop, mais c'est une de celles dont on voit les effets que ça fait, ça surtout que il y a une chose qui leur pèse dessus, c'est que si ils perdent la raison, il risque de se transformer en personnage corrompu, et les personnages corrompus vont à la cave, c'est-à-dire qu'ils disparaissent tout simplement. Je sais que du coup j'ai regardé cette émission avec Mel, donc je vais laisser Mel donner son avis, puis après je donnerai la parole à Fadi.
Oui, moi du coup je connaissais pas du tout, je savais même pas que c'était sur YouTube, je connaissais pas le studio d'animation derrière, et quand j'ai vu sur Netflix au début j'étais pas très emballée, c'est toi JR qui m'a dit non mais il faut qu'on regarde, il paraît que c'est banger et tout, et j'étais là bon ouais bof, les premières minutes l'animation m'a dérangée, et puis en fait... je pense que c'est juste parce que j'ai pas trop l'habitude aux trucs ultra colorés en 3D, etc. Mais en fait, on s'y fait très vite au final. Et ouais, effectivement, les personnages sont ultra attachants, je trouve. Bon, moi, j'adore Jax. Il est un peu foufou. Voilà, moi j'aime bien les personnages un peu comme ça. Kinger aussi est incroyable. J'aimerais bien savoir plus sur l'héroïne principale, Pomni, parce que je sens qu'il y a pas mal de mystères autour d'elle quand même. Et tout ce qui est univers autour, pourquoi il se retrouve là, qu'est-ce qui se passe, qui est Kane, parce que forcément je pense que ce personnage-là, qui les envoie dans des aventures, etc., il est très louche, honnêtement. J'ai grave kiffé au final, et ça m'a donné envie de regarder le reste.
Et du coup, Fadi, est-ce que ça t'a donné envie de regarder, tout simplement?
Ça, bah, moi, je suis client de beaucoup de choses. Hein. Comme tu disais, moi, je suis un gros client. Tu me parlais SF, oui. Et moi, j'avais suivi un jeu vidéo et un animé qui s'appelait Hack, H-A-C-K, avec un point et deux slash, qui est un animé qui prenait à peu près le même truc d'être dans un jeu vidéo. C'est un peu comme SOA, qui est d'être dans un jeu vidéo, mais c'est un peu plus trash parce que tu pouvais mourir si tu mourais dans le jeu, tu mourrais en vrai, un truc comme ça. Donc là, ça parle de jeux vidéo et de SF, oui. Et bah, ça m'intrigue du coup la dualité que vous énoncez sur le fameux personnage Jax. Et juste par curiosité, du coup, j'ai envie d'aller jeter un petit coup d'œil sur... C'est Netflix, c'est ça? Sur Netflix.
Ouais, c'est
sur Netflix. Pour aller voir ce que ça rend. Et surtout, tout ce qui est 3D, j'aime bien. Par contre, beaucoup coloré. J'ai pas trop testé. Donc, à voir aussi par curiosité.
C'est très coloré.
Ouais. C'est très enfantin. Sur Netflix, en épisode, c'est-à-dire 20 minutes. Il y en a 3 pour l'instant.
Alors, petit truc, ça fait très enfantin, mais l'épisode 3 m'a traumatisé. Ouais. Voilà, je le dis.
Enfant mais grand, quoi.
Grand enfant, quoi.
Encore une fois, c'est pas à mettre entre toutes les mains. En attendant, du coup, c'est la fin de cette chronique Pop and Clap. Je rappelle encore une fois que nous sommes sur Radio G 100.5 FM. C'est une radio angevine que vous pouvez retrouver aussi en DAB+. Et du coup, tout de suite, je vous laisse du coup pour la petite pause musicale. À tout à l'heure.
breath upon my neck, a soft caress as cold as death. Back well then, I blame it on all luck and pain.
Luck and pain.
Your blood like wine, I want it in. Oh darling, get me drunk and make me feel. It's not my fault, I'm not to blame. These ain't my sins, broke my chains. There's more to do and I still want to live.
I feel your breath upon my neck, a soft caress as cold as death.
Cold as death.
I feel your heart beating my soul, our future's bound.
De retour après du coup la musique que vous pouvez retrouver dans Baldur's Gate qui s'appelle I Want to Live et qui a été faite par Borislav Slavanov. Désolé pour peut-être que j'ai écorché son nom, hein, c'est des choses qui arrivent. Et du coup, on va partir tout de suite pour une très courte chronique du coup sur un jeu de rôle qui me tient à cœur et après on reviendra et on fera du coup une plus grosse chronique bric-à-brac.
Oui.
Hop, à tout de suite.
La chronique JDR, lance les dés avec JR.
Alors, pour aujourd'hui, on va faire une chronique qui va durer, à mon avis, 2 minutes chrono, parce qu'on a un très gros sujet qui arrive juste après. Mais on va parler, du coup, de Things from the Flute. Things from the Flute, c'est quoi? Things from the Flute, c'est, du coup, la suite de Tales from the Flute dont j'ai parlé la dernière fois, qui vous met, cette fois-ci, dans la peau d'adolescents qui vont entre 15 et 20 ans. Donc, c'est plutôt des jeunes adultes, et du coup, on peut jouer des personnes qui sont à la fac, tout ça. Personnellement, c'est je parlais de JDR de cœur la semaine dernière avec Tales from the Loop. Ce qui m'a fait accrocher à Tales from the Loop, c'est Things from the Flute, parce que on va dire que c'est quelque chose qui va être plus proche de notre réalité. Le loop est fermé dans Things from the Flute parce qu'on a appris que ça faisait de la merde. Et lorsque le loop s'est fermé, des grosses marées noires sont venues et ont inondé une certaine partie du pays, tout simplement. On joue donc des jeunes adolescents dans un monde dans lequel il y a une crise économique, une crise du travail, parce qu'en fait, le loop faisait travailler beaucoup de personnes. Et du coup, on est dans un univers qui est beaucoup plus sombre déjà de 1 par rapport à l'ambiance qu'il va y avoir, qui sont des années 90. Surtout que tout ce qui va être technologique, en fait, s'est pris un énorme coup dans le bide, parce qu'il y a quelque chose qui est apparu qui s'appelle le cancer des machines, qui est un cancer littéralement pour les machines, qui va parfois faire transformer les machines en espèce d'horreur biomécanique, mais ou juste qui va les faire disjoncter. Dans Things from the Flood, vous pouvez mourir. Et ça, c'est un gros changement. Et dans Things from the Flood, vous allez être mis face à des choses qui vont être beaucoup plus pernicieuses. Des créatures qui sortent de l'eau, on ne sait où, qui vont noyer des enfants, ça peut arriver. Des robots qui deviennent fous, ça peut arriver. Une personne, tout simplement, qui devient par désespoir de cause, parce qu'elle ne travaille pas, commence à faire des horreurs, ça peut arriver. C'est un GDR qui, encore une fois, est fait là, par contre, vraiment pour un public plus averti, et qui peut parfois mettre les gens mal à l'aise, parce que ça va être beaucoup plus proche, encore une fois, de notre réalité par rapport au reste. Moi, je vous le conseille. Je sais pas si ça vous tente, et si ça vous tente, dites-le-moi.
Je connaissais pas du tout, donc je saurais pas te dire. Par contre, plus proche de la réalité, ça peut m'intriguer.
Okay.
Parce que moi, je fais beaucoup, je fais pas beaucoup de GDR, mais dans ce que je fais, on est plus sur de la fantasy, truc très éloigné et tout. L'approche de la réalité, sûrement, mais à voir. Là, faudrait vraiment tester pour tester. Moi, sur les jeux GDR, jeux vidéo, jeux de société, je suis plus dans la pratique.
Okay.
D'abord. Mais par contre, je savais pas qu'il y avait deux, que c'était une suite. Et le fait qu'on puisse mourir fin, ça, c'est intriguant aussi.
Mmh. Ok. Et du coup, toi, Amel?
Moi, j'aime bien. Déjà, j'avais déjà joué à Tales from the Loop.
Oui.
J'avais beaucoup aimé, donc peut-être que j'essaierai des sessions JDR sur la suite.
Okay. C'est sur plateau ou c'est en ligne ou les deux?
On peut faire sur les deux. Si entre ces quatre, ça vous tente de faire une partie, vous savez, ça s'organise.
C'est les auditeurs ou c'est moi?
Ah, c'est toi.
Tous.
Pour le coup, je parle à vous deux, et si vous voulez d'autres, et même s'il y a des auditeurs qui sont tentés, écoutez, envoyez un message, si j'ai du temps, on s'arrange. Mais du coup, comme j'ai dit, c'était très rapide, 2 minutes chrono pour ça, et on va tout de suite passer du coup à notre dernière chronique, qui est la chronique bric-à-brac, dans laquelle on va avoir un sujet de conversation un peu plus sérieux. À tout à l'heure.
À tout de suite.
Quiz, blind test et surprise, bienvenue dans le bric-à-brac avec Mel et JR. Alors, je vais te laisser Mel le présenter, le sujet du jour.
Oui, effectivement, aujourd'hui dans le bric-à-brac, on a décidé de parler d'un sujet, ça s'est fait un peu au dernier moment, avant-hier, je crois. Parce qu'en fait, j'ai remarqué quelque chose que je prends de plus en plus conscience, c'est les majeurs qui crushent sur des personnages fictifs mineurs. Alors, on va rester sur des personnages fictifs, on ne rentrera pas dans les personnes réelles, etc., mais on parle de personnes comme vous et moi qui ont la trentaine et qui vont avoir des crushs, une attirance pour des personnages qui sont mineurs en fait, ou lycéens. Et en fait, ça m'est venu suite à une vidéo TikTok d'une influenceuse manga qui montrait un animé où l'opening, en fait, c'était chaud, genre ça donnait chaud, genre vraiment. Voilà, moi je suis une fille qui a tendance à crusher sur les personnages fictifs. J'adore faire ça, vraiment, j'en ai des milliers. Et en fait, j'étais en mode ah ouais, ça a l'air pas mal. Et j'ai regardé le premier épisode de l'animé, ce sont des lycéens. Et j'étais là en mode mais l'opening là, c'est pas possible, c'est pas des lycéens, ils vont pas rester lycéens tout le temps. Et apparemment, si, ce sont des lycéens représentés. C'est vraiment des lycéens, mais dans l'opening, j'arrive pas à savoir s'ils sont représentés comme leur forme adulte ou pas. Et ça m'a posé des questions. J'ai 29 ans, j'ai bientôt 29 ans, j'ai pas envie de crusher sur des personnages mineurs. Donc, ça, j'en ai parlé avec JR. On en parlait comme ça et on s'est dit ça serait intéressant d'en parler, de savoir l'avis des gens, des auditeurs et des auditrices, et de savoir où est-ce que la fiction s'arrête et entre la fiction et la réalité, et en quoi ça peut poser problème en fait de crusher sur des personnages mineurs en fait.
pour moi, il y a deux questions qui sont là-dessus. C'est que dans un premier temps, le fait d'avoir, comme on dit, des husbando ou des waifu, c'est quelque chose qui est de plus en plus normalisé aujourd'hui.
Oui.
Et en effet, c'est vrai qu'on voit de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux, certains influenceurs, je ne vais pas citer de nom de toute façon, qui vont crusher sur, notamment dans My Hero Academia, sur des mineurs, ou même dans Naruto, tout ça. Pour moi, ça pose plusieurs soucis. Déjà, d'un point de vue de l'image de communauté que renvoie en fait la communauté manga, on est une communauté qui a déjà de base en fait une réputation de puant. Et le fait qu'on voit ça sur les réseaux sociaux, ça pose problème pour moi. Faudrait pas normaliser ça. C'est pas normal qu'il y ait des personnes de leur grand âge qui se disent, oh putain, le lycéen, ok, d'accord, c'est qu'en dessin et du coup, ça, c'est pas la réalité. Mais putain, le lycéen, il est quand même sacrément bien gaulé. Non. Genre, il a 16 piges ou elle a 16 piges. Tu peux pas dire ça. Et le fait de dire, parce que je sais que j'ai déjà entendu aussi ce truc de, ouais, mais tu comprends, c'est la vibe où, en fait, on dirait qu'il est plus âgé. Pour moi, ça me fait penser exactement à un truc que je voyais quand j'étais dans la communauté du métal, qui était les espèces de nounours qui disaient à des gamines, ouais, mais tu fais mature pour ton âge. Ça me donne juste envie de gerber, et c'est mon avis. Je pense que c'est un souci, je pense qu'il faudrait qu'on en parle un peu plus, parce que on est vraiment de plus en plus dans des personnes qui se permettent en fait de dire certaines choses sur certains trucs. C'est comme pour les lolis, mais ça, encore une fois, c'est un autre sujet. Et toi, t'en penses quoi, Fadi?
C'est un sujet important et complexe. Moi, je pense qu'il y a deux choses. La première, du côté pas forcément des spectateurs et spectatrices, mais surtout des dessinateurs, éditeurs, ceux qui sont du côté production. Si l'opening que t'as vu toi, Mel, t'a choqué, moi, je me dis que ceux qui ont fait l'opening l'ont fait pour être choquant. Donc, il y a peut-être un argument de vente derrière. Alors, je m'y connais pas. Il y a peut-être un argument de vente derrière. Et de l'autre côté, crusher sur un personnage fictif, en soi, il y a rien de grave tant que ça reste dans sa vie privée. Moi, je pense que le problème, c'est de l'exposer sur Internet et du coup, de commencer une sorte de partage de parole comme si c'était une bonne idée de dire aux autres, bah regardez, je crush sur ce personnage mineur et je vais en parler à tout le monde. Parce que du coup, s'il y en a qui sont un peu plus influençables que d'autres ou qui sont en recherche de soi ou d'identité ou de genre ou d'orientation sexuelle, bah ça commence à poser des mauvaises billes et du coup, on se crée pas notre propre personnalité. Et le gros problème, moi, que j'y vois dans ce genre de crush, bah, c'est le rapport à la réalité. Je pense que quand on crush sur un personnage qui est bien fait, bah, c'est parce qu'il est bien fait, du coup, voilà, le crush est fait. Mais si on commence à avoir un affect qui est beaucoup trop grand et qui dépasse le monde de la fiction et le manga qu'on regarde, l'animé qu'on regarde, il peut y avoir des problèmes relationnels avec les autres personnes de l'extérieur. Sans parler de choses graves, hein. Mais on peut commencer à regarder de manière autres les personnes de l'extérieur, mineures ou non, on peut dévaluer les gens, alors que à la base c'est juste on regarde un animé, on aime bien les personnages, bah voilà, point barre quoi.
D'ailleurs, c'est ce que je me dis. D'ailleurs, en parlant de ça pose aussi d'autres questions parce que dans certaines conventions on peut voir des oreillers de ces personnages mineurs, mais de ces oreillers, mais genre. Ah, parfois vraiment c'est puant, hein, genre quand tu vois la Anya sur un oreiller qui est là pour dormir à côté d'un grand adulte, tu te fais bon frérot, enfin.
Pour rappel, l'Anya, elle a 5 ans je crois, 5 6 ans, oui. Un truc comme ça, hein. Donc dans Spy X Family. Donc c'est chaud.
Et les gens qui sont en mode non mais tu comprends, c'est bon, elle a 5 ans mais on l'imagine quand elle a 18 ans, mon ref.
Les oreillers sont faits pour les enfants à la base.
Non. En fait, je sais pas si t'as déjà vu, je crois que ça se fait un peu moins maintenant, mais dans les conventions par exemple, les stands dits pour les personnes fans de culture japonaise, etc., ils ont des grands tissus où il y a des représentations de personnages de manga, etc. Et en fait, des fois, t'en as de personnages mineurs. Par exemple, ça peut être Anya, qui a 5 ans, mais ça peut être aussi, par exemple, Bakugo dans MHA, qui a 16 piges, tu vois. Et en fait, parfois, ils peuvent être représentés de manière un peu sexualisée. Donc, par exemple, Bakugo, il va se retrouver torse nu. Tu t'achètes pas, d'accord. Et en fait c'est un tissu de coussin. T'achètes pas ça pour juste faire joli ou quoi. T'achètes ça pour dormir ou le collectionner. Mais
il y a des gens qui appellent ça les fab coussins quand même.
Voilà,
encore une fois, et je précise que tout ce qu'on dit ici, ça n'engage que nous.
Oui, bien sûr.
Et on fait que discuter. Je suis en train de voir le temps et on gratte juste la surface et c'est frustrant.
Ah bah oui, ouais, bah, faudra prendre un temps.
Mais après, si ça vous intéresse, on pourra aussi tout simplement dire que là, on a fait une introduction pour poser la question. Et si ça vous intéresse, on peut voir, du coup, vu qu'on a commencé le débat avec Fadi, à un moment où Fadi est dispo. Et au lieu de faire une émission normale, on fera vraiment en gros sujet où pendant une demi-heure, on pourra parler que de ça.
Ah bah avec plaisir.
Bah oui. Totalement.
J'en ai des choses à dire.
Ouais, on a des choses à dire,
vous savez, hein, de mon temps, c'était pas comme ça. Mais je rappelle une dernière fois que vous êtes sur Radio G, 101.5 FM, Radio Angevine, disponible au DAB+. Et moi, bah, sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée. Et bah, je vous dis à dans deux semaines. Et bah, merci à Mel et à Fadi d'avoir été là aujourd'hui.
Merci.
Au revoir.
Ciao.
Radio-G.